Ok, commençons par le commencement. Tu peux d'abord te présenter.
Je m'appelle Thierry de Ronne, je suis belge et je vis depuis 8 ans au Venezuela.
Tu peux présenter un peu ton activité ici?
Principalement, je me suis occupé de former des secteurs populaires au langage de l'image et du son. Tout ça a commencé par un projet qui s'appelait l'École populaire du cinéma, où j'ai travaillé successivement avec des mouvements de femmes, des syndicats, des étudiants, enfin une sorte de constellation de mouvements sociaux les plus divers, et puis aussi avec des associations de quartier directement. Le but était bien sûr de commencer à répondre à l'absence d'image populaire, entendue comme domination écrasante des médias commerciaux, dénigrement permanent par ceux-ci de l'image du quartier populaire, dénigrement permanent du quartier lui-même, j'entends, puisque la majorité sociale au Venezuela a toujours été exclue de l'information, et en particulier de la télévision.
Alors, premièrement, on va commencer donc par l'histoire, la période avant Chavez. On a souvent parlé dans certains bouquins d'histoire et tout ça de la Venezuela saoudite et qui correspond souvent à, disons, à l'époque du puntofirismo. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que représente cette période?
Pour bien comprendre cette période dont tu parles, je crois que c'est intéressant de se reporter dans l'histoire des pays pétroliers en général. On a, par exemple, pas loin de l'Europe, l'exemple des pays nord-africains qui ont effectivement pu, grâce à la manne pétrolière, mettre en œuvre une série de politiques sociales révolutionnaires dans le cas de l'Algérie. En fait, ces systèmes pétroliers, on pourrait parler du Mexique aussi, avaient comme corollaire politique une sorte de paternalisme lié à un parti plus ou moins unique qui était lui-même chargé d'administrer la rente pétrolière d'une façon planifiée mais aussi très paternaliste. À partir du moment où le prix du pétrole commence à baisser, évidemment, ce modèle est remis en cause et on commence à sentir des convulsions sociales de plus en plus puissantes qui font trembler et ensuite s'écrouler ces systèmes. À partir de là, le contexte historique, le contexte culturel, le contexte religieux déterminent évidemment la réponse du système. Dans le cas du Mexique et du Venezuela, on observe une évolution parallèle qui commence par la destruction des grands partis dinosauriens qui étaient le PRI au Mexique et qui étaient Acción Democrática et Copei au Venezuela. Venezuela, c'était deux partis ensemble, mais au Mexique, c'était un seul. En réalité, c'était la même domination, l'éternelle répétition des mêmes dirigeants, la même faculté de frauder pendant les élections pour reproduire les mêmes élites. Mais donc cette destruction des vieux systèmes monolithiques, évidemment, crée un appel d'air, crée un sort de vide dont la nature a horreur par commencer en politique. Et à ce moment-là surgissent toutes sortes de fondamentalisme ou de possibilités de recréer des idéologies, des théories politiques. On sait ce que le fondamentalisme islamique en a fait dans les pays dont on parlait tout à l'heure en Afrique du Nord. Dans le cas du Venezuela, on a un fondamentalisme bolivarien qui commence à apparaître. Bien entendu, il ne s'agit pas de fondamentalisme religieux. Il ne s'agit pas d'une idéologie lisse. Mais en tout cas, certainement, d'un besoin de réenracinement à l'intérieur d'une histoire qui commence avec Bolivar, avec l'indépendance du Venezuela, un Bolivar qui est ensuite projeté sous forme d'idéal, idéal de justice sociale, idéal d'intégration latino-américaine, et quelques officiers progressistes qui avaient, à travers l'université, à travers les études à l'armée, pu retrouver ce filon de l'idéologie bolivarienne, le projette dans une critique de la corruption d'abord, assez moralisante, et ensuite, peu à peu, dans les contacts permanents avec le mouvement populaire, vont en faire un véritable projet politique. C'est donc le travail qu'effectue notamment Hugo Chavez, dont le premier putsch, disons, bolivarien, se solde par un échec, mais qui décide ensuite de suivre la voie électorale. Quelques années de prison lui permettent d'établir des liens en profondeur avec le mouvement social au Venezuela, avec de petits partis politiques qui faisaient office de gauche, mais qui n'étaient pas très représentatifs de la population, en tout cas avec ce qui était disponible sur le terrain politique. Mais cela lui permet surtout d'élaborer son propre projet bolivarien, de considérer que le pays a besoin de réponses globales dans le domaine économique, culturel, politique. Donc il y a une sorte de matrice bolivarienne qui se met en place, un véritable projet qu'il va porter ensuite de meeting en meeting à partir de sa sortie de prison. Et le génie politique de Chavez, c'est aussi d'avoir pris en compte l'énorme contradiction sociale que sous cette rente pétrolière, le Venezuela n'avait cessé d'alimenter, c'est-à-dire une grande majorité sociale qui était une minorité politique et qui un jour ou l'autre, comme en Afrique du Sud ou comme partout ailleurs, devait émerger, devait trouver sa voie, devait trouver son espace. Chavez l'a compris avant les autres, et en s'appuyant à la fois sur cet héritage bolivarien et sur cette bombe à retardement d'une société qui croyait pouvoir perpétuer éternellement une élite au pouvoir, finit donc par gagner les élections, envers et contre tout, malgré l'opposition féroce des médias pratiquement monopolistiques au Venezuela, dans le sens médias privés, médias commerciaux, et qui bien sûr refusait de lui apporter un quelconque appui puisqu'il voyait en lui une menace. Cette victoire de Chavez aboutit donc enfin à la constitution bolivarienne.
Mais avant de parler donc de l'époque Chavez, moi j'aimerais, disons, je crois que c'est dans les années, c'est les années 50, je pense, où le puntofirisme, le pacte de Punto Fijo a été signé, donc pour donc fermer véritablement l'espace politique et assurer sa stabilité dans le parti unique à deux têtes. Mais quels sont les grands moments de la chute de ce système de clientéliste et la chute du système basé sur la rente pétrolière? On parle souvent de la dévaluation du Bolivar et du Caracazo. Est-ce que tu pourrais peut-être éventuellement un peu expliquer?
Oui, la chute du Bolivar commence à secouer le système au sens où tout à coup, ce flux d'argent qui arrivait même jusqu'aux mains des plus pauvres et qui venait colmater sans cesse les brèches de la contradiction sociale dont j'ai parlé, s'écroule. Enfin, il n'est plus possible là de mentir sur le plan du rentisme pétrolier. Le Caracaso est une conséquence indirecte dans le sens où, pris dans cette logique d'une monnaie de plus en plus dévaluée, le président Pérez, social-démocrate, décide d'appliquer classiquement les mesures du FMI.
Oui, le premier jour ou le deuxième de son mandat, alors qu'il vient d'être réélu.
Encore dans l'illusion peut-être de reconduire le populisme de son premier mandat et les grands meetings de masse qui le déifiaient pratiquement. Et Pérez croit donc pouvoir compter sur le même appui, décide à ce moment-là d'imposer les mesures du FMI, et cette austérité ne fait que, bien sûr, comme toujours, faire s'envoler des prix de produits de base. ce moment-là, la panique commence dans les secteurs populaires. Le sentiment que tout à coup la peur de la faim, les prix des transports en commun, cette sécurité minimale que le travailleur a de pouvoir arriver au travail s'écroule et à ce moment-là, les quartiers populaires commencent à récupérer le fruit de leur travail par notamment des pillages. Et ce sont des scènes où on note la grande joie évidemment de la population puisque elle peut récupérer une miette de ce qu'elle a toujours dû offrir pratiquement pour des salaires de misère. À ce moment-là, la réaction du système, du président, est d'envoyer l'armée massacrer cette population, sous prétexte de rétablir l'ordre, bien sûr, mais en fait, il s'agit là de semer la terreur parmi la population. On trouve encore aujourd'hui des cadavres dans des fosses communes. C'est le gouvernement d'Hugo Chavez, ironie de l'histoire, qui a dû assumer l'indemnisation de certaines familles de victimes. Et en tout cas, c'est un tournant dans l'histoire du Venezuela parce que c'est le moment où le pouvoir se désolidarise complètement de la population, alors que jusque-là le pétrole avait permis de créer une fausse communion, une sorte de générosité fausse du pouvoir pour les plus pauvres. On voit bien à ce moment-là que les contradictions se dénudent. Le pouvoir défend ses intérêts et la population est réprimée dans la défense des siens. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est l'écroulement du système, effectivement, du puntofijismo, la façade démocratique, la modernité démocratique du Venezuela tombe en miettes. Le leurre apparaît nu et la population, à partir de là, entre dans un processus de conscientisation et lentement aussi d'organisation.
Oui, donc le Caracazo est souvent décrit donc comme vraiment le début, on va dire, de l'ascension de Chavez, même s'il n'était pas encore connu à ce moment-là, même si il a créé son mouvement bolivarien révolutionnaire en 1982, si je me souviens bien. Donc c'est un militaire au sein de l'armée, il a créé ce mouvement. Et donc, comment vois-tu, donc en 92, il y a deux coups d'État, mais principalement celui de Chavez et de ses compagnons d'armes. Comment analyses-tu cette tentative de coup d'État?
Elle a deux aspects. Elle est liée au passé, à cette formation qu'avaient les militaires qui ont mené ce coup d'État, c'est-à-dire une formation qui oscille entre le moralisme de droite, et un bolivarianisme progressiste, où on retrouve des courants tout à fait contradictoires par conséquent. L'idée centrale de ce coup d'État, c'était de mettre fin à la corruption, de l'élite au pouvoir. Mais quant à la projection politique, dans le devenir politique d'une éventuelle victoire des putschistes, on a bien vu par la suite que les idéologies étaient tout à fait diverses et parfois contradictoires. On avait donc des militaires plus à droite, des militaires plus à gauche. Par conséquent, ce coup d'État n'a été au fond qu'un avant-goût de quelque chose de plus profond, qui était la réaction de l'ensemble de la société, et pas seulement envers la corruption, mais envers l'immense inégalité, l'absence de participation, le mépris profond d'une élite pour 80% de la population pauvre. Donc peut-être il faut lier surtout ce coup d'État à ce qui allait se produire plus tard. Il était peut-être plus un effet d'annonce que le centre même du mouvement.
Oui, et ici donc ici à Marrakech, il y a une femme là qui m'a dit qu'ici on trouvait sur des murs des graffitis, mais Chavez, pourquoi tu nous as pas prévenus, disons avant le coup d'État? Est-ce que tu peux un peu expliquer ça?
Effectivement, les militaires sont surpris eux-mêmes par le relais populaire qui suit leur coup d'État. Ça, c'est une contradiction qu'on pourrait retrouver jusqu'à aujourd'hui, finalement, dans l'attitude de Chavez. C'est que, en fin de compte, sa référence permanente reste l'armée, par sa formation, évidemment. Il s'appuie essentiellement sur une relation avec les militaires, une relation très riche, mais unique dans l'analyse politique qu'il fait. À ce moment-là, il compte essentiellement sur les forces de l'armée pour mener à bien son projet de coup d'État. Et c'est avec une certaine surprise que les militaires voient se soulever une grande partie de la population en appui au coup d'État et en fonction d'intérêts sans doute encore plus profonds. Quand on regarde ce qui s'est passé récemment lors du retour du président Chavez au pouvoir et du rétablissement de la Constitution par un peuple sorti massivement dans les rues lors du mois d'avril 2002, on remarque que la réaction première de Chavez lorsqu'il revient dans la caserne de Maracay où les officiers loyalistes l'accueillent au bas de son hélicoptère, c'est de remercier d'abord les militaires. Alors que la population est là autour de la caserne, il s'adresse d'abord aux militaires pour les remercier, alors qu'en termes de rapport de force, on pourrait dire que c'est plutôt la population qui a été déterminante. Donc on retrouve un peu ce même problème du rapport de Chavez avec l'armée d'une façon tellement constante et peut-être un manque de confiance dans la population.
Bon, le rôle de l'armée, on va le revoir un peu après, mais comment est-ce que tu peux donc, après ce coup d'État, Chavez passe 2 ans en prison, où donc il rencontre des mouvements sociaux et tout ça, il lit beaucoup, il réfléchit, tout ça, après il sort de prison, il essaye, il arrive à convaincre une partie de ses camarades, on va dire, faire de la politique légalement, traditionnellement, pour aller vers les élections présidentielles et les autres aussi, les élections de gouverneurs, de municipales et tout ça. Comment est-ce qu'on peut analyser l'émergence de cette figure, Chavez? On parle souvent justement, le jour du coup d'État, il a pu parler à la télévision pour demander à une garnison de Maracaibo qui tenait encore le coup, face aux forces de répression, disons, anti-coup d'État, on va dire anti-Chavez. Il a pu parler à la télévision, il a lancé un message, et il y a eu le célèbre « por ahora », pour l'instant. Donc, pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Et ça, c'est devenu une phrase absolument mythique. Et à partir de là, vraiment, c'est là qu'il devient vraiment connu, et là émerge vraiment le symbole, le leader Chavez. Et comment est-ce qu'on peut analyser ça, l'apparition de Chavez comme ça sur la scène publique et l'importance qu'il a aujourd'hui?
Le moment où il apparaît comme le responsable du coup d'État, lorsque les caméras de télévision s'approchent de lui, c'est effectivement pour médiatiser la reddition des rebelles. Donc il prend la parole effectivement à ce moment-là en demandant aux autres de déposer les armes. Il y a déjà à ce moment-là, dans l'analyse qu'on peut en faire, un côté moins idéaliste sans doute que ce que l'histoire en a fait depuis. C'est-à-dire que Chavez, semble-t-il, n'a pas mené aussi rondement que nécessaire l'opération militaire sur Caracas, et ce n'est pas vraiment à cause de lui, mais en partie oui, que le coup d'État échoue. Certains lui ont même reproché d'avoir trop vite renoncé à le mener à bien. Toujours est-il que le por ahora que tu cites, donc lorsqu'il déclare que pour l'heure on n'est pas arrivé à nos fins, par conséquent on va déposer les armes, mais pour l'heure, ça veut dire que peut-être un jour, oui, nous pourrons atteindre notre objectif. Certains l'interprètent comme une simple remarque lié au fait qu'il avait finalement décidé que simplement à ce moment-là, il était temps d'arrêter, sans forcément de projection historique. Peu importe l'interprétation qu'on en fait, toujours est-il que l'apparition même du personnage Chavez n'est pas si mécanique que ça. C'est-à-dire, c'est pas du tout le martyr de la rébellion militaire qui va se transformer en héros populaire. Il faut savoir qu'après cet échec du coup d'État, il est effectivement emprisonné. Et puis il va connaître sa traversée du désert. Les gens qui d'abord le glorifient comme effectivement quelqu'un qui ose se responsabiliser enfin dans un pays où personne n'assume ses responsabilités au pouvoir, les gens vont quand même l'oublier pendant quelques années, au point que pratiquement il va se retrouver seul. Il va se retrouver seul. Avec certains reproches même de la population d'avoir raté le coup d'État et le sentiment que l'histoire ne passe jamais deux fois les plats et que par conséquent la voie électorale qu'il choisit finalement c'est plutôt un mauvais calcul. Finalement, je pense que Chavez a été transformé par cette fameuse contradiction sociale. C'est-à-dire que lorsqu'il revient sur la scène politique avec le projet de suivre la voie électorale, il va recueillir, bon gré mal gré, cette énergie du mouvement populaire qui est déjà en marche, bien avant lui, qui a continué à avancer à travers notamment des manifestations ouvrières, étudiantes. Cette accumulation de forces présente au sein de la population, et lui finalement va être en quelque sorte le paratonnerre ou le déclic, on peut l'appeler comme on veut, de cette contradiction qui était déjà en marche et qui retrouve finalement en Chavez un modèle d'identification. Parce que là, oui, on peut ajouter qu'effectivement Chavez, c'est quelqu'un qui sait parler le langage du peuple, qui a vécu lui-même les conditions de vie de la majorité de la population, qui a été obligé de survivre par les petits métiers que beaucoup de Vénézuéliens ont dû pratiquer, et qui aussi a la peau pratiquement noire ou un physique très proche de la majorité de cette population métissée par les esclaves africains. Et donc, par beaucoup d'aspects, les gens vont commencer à s'identifier à lui comme s'il était un des leurs, quelqu'un qui est venu à pied du barrio, du quartier populaire. À partir de là, on a les ingrédients nécessaires pour comprendre comment, malgré l'opposition des médias commerciaux, dont on sait donc qu'ils occupent l'ensemble pratiquement du spectre au Venezuela, malgré cette opposition terrible, et bien sûr celle de l'élite et des groupes économiques, Chavez réussit par une communication secrète, par une communication directe et profonde, mais secrète en même temps avec l'ensemble de la population, à s'imposer électoralement.
Oui, donc pour aller aux élections, il avait déjà créé le mouvement bolivarien révolutionnaire de sang. Et là, il va créer le mouvement 5e République, Quinta República, ainsi que le pôle démocratique, disons, pour rallier d'autres forces au projet bolivarien et aux élections. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment est né, qu'est-ce que ce mouvement, le pôle démocratique et le mouvement 5e République?
C'est la conséquence de l'absence de gauche au Venezuela, au sens où il n'y a pas. On n'a pas ici, on n'a jamais connu de véritable parti de gauche, au sens où on entend en principe par parti de gauche un mouvement d'organisation qui commence par des mouvements sociaux, qui ensuite trouvent leur expression politique, portent des revendications sociales, mais qui deviennent des revendications politiques. On a eu ici comme parti de gauche ce que j'appellerais des clubs pratiquement fermés sur eux-mêmes, composés essentiellement de militants intellectuels qui ont porté le marxisme notamment, très marqué par le modèle cubain aussi. Lorsqu'ils se lancent dans la guérilla, ils essaient de reproduire l'expérience cubaine, mais avec probablement une volonté d'importer un modèle plus que de le réfléchir et de le créer à partir de la réalité vénézuélienne. De la même façon, dans la vie politique, pour eux, il s'agit de reproduire un discours marxiste, mais pas forcément de comprendre la réalité vénézuélienne et beaucoup moins encore de s'allier avec la population, de créer une véritable organisation populaire. Donc cette gauche rachitique est incapable de porter un projet politique. Elle a cependant quelques postes clés et quelques capacités d'appareil. Et à ce moment-là, évidemment, Chavez essaie de créer une plateforme électorale avec ce qui est disponible. Il va donc prendre langue avec une série de dirigeants plus ou moins historiques, soit issus de la guérilla, soit de partis plus ou moins de gauche. Et le but est simplement de rassembler à travers ces appareils un nombre de voix suffisant pour s'imposer. Actuellement, d'ailleurs, on retrouve cette contradiction dans des alliances qu'ils mènent encore avec des gouverneurs dont on sait bien qu'ils n'ont rien de révolutionnaire, mais qui lui sont nécessaires pour garder un certain contrôle dans certains états du pays. Peut-être on pourra dire, mais oui, mais si Chavez avait justement l'appui de 80% de la population, pourquoi n'a-t-il pas fait fi de ces compromissions avec des appareils bien usés et déjà souvent corrompus? C'est parce que la logique électorale voulait malgré tout qu'il y ait un certain appareillage, une certaine mécanique pour simplement coller des affiches, faire de la propagande, réaliser des meetings, etc. Et l'appareil dont il disposait n'était pas suffisant, il a donc dû passer par ce qui existait.
Oui, donc en 1998, il gagne les élections avec, je pense, autour de 60% des voix. Il devient donc président, il prend ses fonctions en 99. Première grande mesure, on va dire, c'est bien sûr l'Assemblée constituante. Est-ce que tu peux un peu en parler?
Dès le départ, Chavez a porté cette revendication pendant la campagne électorale. C'est une promesse donc qu'il tient dès son élection de réunir une assemblée constituante, ce qui suscite d'ailleurs une deuxième élection où l'ensemble de son mouvement fait à nouveau la majorité des voix. Et le but de la constituante, c'est de fonder une république bolivarienne. Et par conséquent, sur base de ces principes bolivariens, de davantage de justice sociale, d'intégration de la nation, les constituants réunis à Caracas vont donc écrire les articles dont on pourrait résumer l'essentiel, participation et protagonisme de la population. Participation et protagonisme, ça signifie la rupture avec un modèle de démocratie représentative, le fameux modèle dont tu as parlé, le puntofijismo, où une classe politique s'arrangeait entre elles pour finalement jouer un rôle de façade démocratique sans prendre en compte les véritables nécessités de la population. La participation et le protagonisme de la nouvelle constitution bolivarienne, c'est au contraire ouvrir la voie à des espaces réels de participation sur tous les plans locaux, le plan local, régional et national. Et donc, c'est une base, nécessaire pour une république différente. Ce qu'on peut néanmoins regretter, c'est que la discussion de la Constitution s'est faite relativement à huis clos, au sens où, au lieu de prendre contact avec la population dans l'ensemble du pays en faisant des assemblées itinérantes, ça s'est fait dans un cadre relativement classique, à l'intérieur d'une enceinte, entre des gens supposés être beaucoup plus experts, qui sont les députés de la Constituante. Néanmoins, et là aussi on retrouve la même équation intéressante, là où on aurait pu craindre que ce huis clos fasse de cette constitution à très beaux textes, mais sans suite démocratique réelle, intervient un second élément, c'est que Chavez va ensuite reprendre d'une façon pratiquement quotidienne tous les thèmes de cette nouvelle constitution à travers ses allocutions télévisées, en insistant avec la constitution dans la main sur la nécessité de la population, sur la nécessité pour la population de prendre en main ce texte et de le faire appliquer. Et là, en quelque sorte, il compense l'absence de contact des constituants avec la population. Il le compense en disant, voilà, ce texte maintenant, c'est à vous de le reprendre en main, c'est à vous, en somme, de le fonder dans la réalité. Et ce message, répété inlassablement pendant un an et demi, explique que lorsque se produit le coup d'État d'avril 2002, c'est sur base de la Constitution que les gens sortent massivement dans la rue. On voit les scènes étonnantes où des femmes brandissent leur carte d'identité en rappelant au dictateur Carmona que la République qu'il vient de débaptiser en la renommant République du Venezuela, c'est une République bolivarienne et les femmes montrent